Chapitre 4. Le lendemain de son voyage à Clamart, Jeanne reçut la visite de M. Mérantier. Il était à Paris depuis quelques jours, retour de Russie, et en rentrant, il avait trouvé la lettre par laquelle elle le priait de venir la voir. Mais des affaires urgentes l'avaient empêché de se rendre plus tôt à son invitation. L'excellent homme fut profondément ému lorsqu'il vit la fille de son ancien ami dans ce pauvre intérieur et qu'il devina à sa pâleur toutes les privations qu'elle devait s'imposer. « Est-il bien possible, ma petite Jeanne ?» dit-il d'un ton attendri en lui prenant les deux mains. « Est-ce bien vous que je vois ici, dans une maison si affreuse position, vous habitué au bonheur, au luxe, à l'élégance ?» Ah, tout cela est bien loin de moi maintenant, mon cher monsieur Mérantier, dit-elle avec un triste sourire. Le problème consiste aujourd'hui à ne pas mourir de faim, et j'étais assez heureuse pour le résoudre jusqu'ici. Tant que j'aurai une bonne santé et que je verrai Georges se bien porter aussi, je ne me plaindrai pas. Je ne suis pas riche, mais vous savez, je ferai tout mon possible pour vous aider. Je n'ai pas oublié ce que votre père a été pour moi aux heures difficiles de ma vie. Je vous remercie, monsieur. Je connais votre bon cœur et je suis heureuse de penser maintenant que vous allez être près de moi à Paris. Si quelque malheur m'arrivait, Georges ne serait plus seul. Mais jusqu'à présent, en travaillant, ma bonne Clara et moi, nous avons pu suffire aux besoins de notre petit ménage. Donc je vous ai prié de venir me voir parce que j'ai pensé que vous pourriez m'aider dans l'œuvre que j'ai entreprise. » Elle lui raconta alors tout ce qui s'était passé depuis la mort de son père, le coffre-fort vide, les retraits de sommes importantes opérés à la Banque de France par un inconnu, la déconfiture de la maison de banque, les recherches faites si habilement par M. Bidache, et la découverte de cette correspondance secrète échangée entre son père et une femme nommée Joanna, que la Seda semblait avoir connue autrefois. Elle lui demanda enfin s'il ne pourrait pas lui donner quelque éclaircissement sur cette période de la vie de son père. M. Mérantier réfléchit, il semblait chercher dans ses souvenirs. Jeanne le regardait avec anxiété, car elle savait l'importance que devait avoir un renseignement précis obtenu sur cette femme. Enfin, après quelques secondes de silence et de réflexion, « Joanna, Joanna, » répéta M. Mérantier, « attendez donc, mais oui, je me rappelle, c'était à Buenos Aires, n'est-ce pas ?»« Oui, à Buenos Aires, en effet, » dit Jeanne, en se rappelant un détail qu'elle avait oublié. « Il est question de cette ville dans la correspondance mystérieuse dont je viens de vous parler. »« Ah, cette Joanna était une péruvienne. Mais il y a tant de femmes de ce pays qui portent ce nom. Est-ce bien celle qui nous préoccupe ? Je l'ai vue en 1847 ou 1848. Une grande fille, très belle. » Mon bateau avait fait relâche pendant 4 ou 5 jours à Buenos Aires et votre père, que j'avais retrouvé par hasard chez un amateur de mes amis, m'avait invité à venir le voir. Il avait pris en effet le nom de M. Rodriguez et ne faisait pas passer pour un Espagnol, parce qu'à cette époque, qui coïncidait avec la révolution de 1848, nos compatriotes étaient assez mal vus à Buenos Aires et sa qualité de Français l'aurait gêné dans les spéculations qu'il faisait sur les terrains. Cette Joanna était ça, enfin vous me comprenez, je crois même qu'il en avait un enfant. Je vous demande pardon de ces détails, ma chère Jeanne, mais je vous considère maintenant comme une femme et puis il est peut-être utile que vous sachiez cela. « Je vous remercie beaucoup, monsieur, » dit-elle. Et prenant une feuille de papier, il y écrivit quelques notes. « C'est tout ce que vous savez sur le compte de cette femme ?» reprit-elle. « Mais tout. Oh, je n'ai passé que 2 heures avec elle chez votre père et je ne l'ai plus revue. » Il y eut un silence. Monsieur Mérantier penchait la tête d'un air préoccupé et semblait hésiter à parler. Jeanne remarqua son embarras. « Oh, monsieur, dit-elle, vous savez encore quelque chose que vous me cachez. Parlez, je vous en supplie. Vous l'avez dit, je ne suis plus un enfant. Le malheur m'a mûri et vous pouvez tout m'apprendre. C'est qu'il ne s'agit plus de vous ni de votre père, » fit monsieur Mérantier en baissant la voix, comme si ce qui lui restait à dire eût été le plus pénible des aveux. « Il s'agit de moi. Ce que vous m'avez révélé tout à l'heure sur la façon dont le crime a été accompli, ces vols de valeurs, de papiers importants commis au domicile de votre père et sur sa personne, tout cela me paraît éclairer d'un jour singulier certain événement mystérieux qui vient de m'arriver à moi-même. » Il hésita encore un instant, puis reprit. Vous m'avez parlé d'un homme actif et intelligent qui vous a été d'un grand secours dans toute cette enquête difficile. Oui, au soulèvement modeste, timide même, c'est l'intelligence la plus vive, le dévouement le plus sincère. On peut avoir en lui une absolue confiance, et il ne trahirait pas un secret important qui lui serait confié. Oh non, je réponds de lui comme de moi-même. Oh, si vous saviez combien il me coûte de vous dire, poursuivit M. Mérantier avec une visible angoisse, mais cela peut avoir une grande importance au point de vue de la recherche de ce misérable assassin. Et après avoir fait un nouvel effort sur lui-même, M. Mérantier reprit. Sachez donc, mon enfant, que lorsque votre père a été tué, il portait sur lui, dans le portefeuille qui lui était dérobé, une lettre que je lui avais écrite 2 jours auparavant. Et dans cette lettre, M. Mérantier pâlit, passa sa main tremblante sur son front, puis sa tête s'inclina de nouveau sous la honte de l'aveu qu'il allait faire. Il se vit d'une voix à peine distincte qu'il continua. Si 35 années d'une vie sans tâche, consacrée au travail et honorée par des actes de dévouement, si 35 années de plus cuisants remords n'ont pas suffi à effacer la faute, ce que je souffre maintenant, au moment de vous l'avouer, doit bien la racheter, je vous l'assure. Sachez donc, mon enfant, que j'ai commencé ma carrière pour servir sur les bâtiments de l'État comme aspirant de marine. Oh, je n'entrerai pas dans de longs détails, d'ailleurs je ne le pourrais pas. J'étais pauvre, mes camarades plus fortunés que moi jouaient beaucoup, me laissaient entraîner. Je perdis d'abord de petites sommes, puis tout ce que je possédais. Il fallait vivre pourtant, il fallait jouer surtout, car cette passion était devenue chez moi plus impérieuse même que la faim. Et dans la fièvre du jeu, et par suite des mouvements que faisait le navire, il arrivait souvent que des pièces d'or tombaient à terre, alors les joueurs y prenaient pas garde. Je me mis à guetter ces sortes d'accidents, et je ramassais adroitement les pièces qui tombaient. C'est ainsi que je commençais à voler. Enfin, un jour, un de nos camarades, un enseigne, avait gagné une somme assez importante. À cette époque-là, les navires de l'État n'avaient pas les dimensions qu'ils possèdent aujourd'hui et les officiers n'étaient pas aussi bien logés. Nous étions une dizaine dans le même carré. Cette enseigne, épuisée par la fatigue d'une nuit de jeu, s'était étendue tout habillée dans son hamac. Son vêtement était ouvert et j'avais vu quelques instants auparavant mettre un portefeuille bourré de billets de banque dans la poche de côté de ce vêtement. Et au bout d'une heure, quand je jugeais qu'il devait être bien endormi, je me levais sans bruit et m'avançais vers lui sur la pointe du pied. Je tirais doucement le portefeuille. Et j'allais me retirer avec cet argent volé lorsque tout à coup l'enseigne, qui était parfaitement éveillée, sauta en bas de son hamac et me prenant au collet, appela nos camarades. « Messieurs !» s'écria-t-il avec force. « Nous étions pas trompés, M. Ponsin est décidément un voleur. »« Ben oui, quelqu'un m'avait vu ramasser les pièces d'or sous la table. On m'avait surveillé et ce portefeuille plein de billets de banque qui avait été mis en évidence pour me tenter. J'étais tombé dans le piège. Nous devions relâcher que 3 mois plus tard. Je vous laisse à penser ce que fut mon existence à bord pendant ces 3 mois. On ne m'avait pas dénoncé à mes chefs, de sorte que je n'encourais aucune punition officielle, mais j'ai à subir le mépris de mes camarades. Je fus mis à l'écart comme un paria. On m'épargna aucun affront, aucune souffrance. C'était justice, je m'en plains pas. Alors, à notre retour en France seulement, ces faits honteux furent divulgués. Je fus chassé de la marine française. Et alors, je changeai de nom et je me mis à faire les plus durs métiers. Je m'engageai comme matelot sur un navire marchand. Mais la connaissance que j'avais du service, mon instruction, ma bonne conduite, me permirent de ne pas rester longtemps dans les rangs inférieurs. Je devins promptement capitaine au long cours, et j'acquis une petite fortune, et je pus me marier. Vous savez que je conservais pas longtemps ma pauvre femme, elle mourut quelques jours après m'avoir donné un fils. Or, c'est de ce fils qu'il s'agit en ce moment. Je vous ai dit que j'avais changé de nom. Je m'appelais Louis Ponsard, je pris le nom de Mérantier. Jusqu'à présent, cela n'a présenté aucune difficulté. Mais dans quelques mois, mon fils va entrer à Saint-Cyr. Oh, les papiers qu'il présentera vont être en règle. On s'apercevra qu'il n'a pas le droit de porter ce nom de Mérantier. On le forcera à appeler Ponsard comme son père. Et songez que parmi ses camarades, il peut se trouver des fils de ceux qui m'ont connu jadis, qui ont été témoins de ma faute. Voyez-vous obligé de rougir devant cet enfant, obligé de lui avouer qu'autrefois j'ai déshonoré le nom qu'il porte. Alors je savais que votre père avait parmi ses amis le garde des Sceaux actuel. Je pensais que par lui, peut-être, je pourrais obtenir d'être autorisé à changer de nom. Mais n'osant pas lui faire de vive voix cette honteuse confession, je la lui écrivis. « Eh bien, mon enfant, cette lettre qui contient l'aveu de mon infamie, elle est évidemment tombée entre les mains de ceux qui ont assassiné votre père. Et il prétend aujourd'hui s'en faire une arme contre moi. Écoutez. » M. Mérantier tira de son portefeuille un morceau de papier sale et crasseux. « Voici ce que j'ai trouvé à mon retour de Russie, » dit-il. Et il lut. « Monsieur, si vous ne voulez, » accent aigu, « pas que votre fils sache que vous êtes un coquin, Q.A.I.N., qui avait volé autrefois, et avait, accent aigu, été mis à la porte de la marine, il faut donner 100 000 francs, S.A.N. Si vous consentez à donner cette somme, remettez à M. Genre, marchand de vin rue Paul Rousseau à La Chapelle, une lettre adressée à M. Gustave et dans laquelle vous indiquerez, accent aigu, comment on peut toucher l'argent, G.E.A.N. Ne cherchez pas à me prendre, sinon votre fils saura tout de suite quel gredin vous êtes, Gustave. Mais en effet, c'est clair, mais c'est évident, s'écria Jeanne très émue. L'homme qui a écrit cette lettre a découvert votre secret dans le portefeuille de mon père. Cet homme, c'est son assassin. Assurément, mais vous comprenez avec quel tact et avec quelle prudence il faut agir, car, mon enfant, c'est mon bonheur, mon honneur que je vous livre en ce moment. Oui, mais cet homme a sans doute des complices, dit Jeanne en réfléchissant. Et si on fait une tentative pour s'emparer de lui, il se vengera. Quelle vengeance, grand Dieu! Voilà ce que j'avais à vous dire, fit M. Mérantier avec un profond soupir, comme s'il eût été déchargé d'un poids qui l'étouffait. Je vous autorise à révéler ces faits à l'homme en qui vous avez confiance. Oh, il faudra toute son habileté, toute son intelligence pour mener à bien cette affaire difficile. « Ah, monsieur, que vous êtes bon et quel service vous venez de me rendre !» s'écria Jeanne, qui comprenait la gravité d'une semblable révélation. Et maintenant, adieu, mon enfant. Voulez-vous encore m'embrasser ? Oh, mais de bien bon cœur ! S'écria Jeanne en se jetant au cou du vieillard. Et je tiens à vous dire combien je vous aime, combien je vous estime. Il la serra paternellement dans ses bras et lui fit promettre qu'elle le mettrait au courant de tout ce qui pourrait subvenir. Lorsqu'il faisait beau, Jeanne avait l'habitude de sortir dans l'après-midi et de conduire Georges pendant une heure ou deux le long des boulevards extérieurs. Peu de jours après la visite de M. Mérantier, elle revenait avec son frère d'une de leurs promenades habituelles, lorsque l'enfant aperçut à peu près en face le cirque Fernando, sur le terre-plein du boulevard, un grand cercle formé par des curieux. En même temps, le son criard d'un orgue de barbarie se fit entendre, indiquant probablement une représentation donnée par ces saltimbanques qui travaillent en plein vent sur les boulevards excentriques. Georges voulut approcher du cercle, et Jeanne y consentit bien qu'elle eût peu de goût pour ce genre de spectacle. C'étaient en effet deux saltimbanques, un homme et une femme. Ils étaient vieux tous deux. L'homme avait une barbe blanche et de longs cheveux gris qui pendaient autour de son crâne chauve. Il était debout au milieu d'un rond sur un petit tapis troué. Autour de lui étaient posés des poids et des boulets en fer. Il portait un maillot rapiécé qui, à force d'avoir été blanchi, n'avait plus de forme et pendait comme une loque autour de son corps trop maigre. Il pliait sur les genoux comme un vieux cheval exténué, et ses mains noires, gonflées de veines, avaient un tremblement continuel. La femme était assise sur un escabeau, à côté de l'orgue de barbarie que tournait un enfant. Ses cheveux noirs, entremêlés de nombreux fils d'argent, étaient serrés par un ruban pailleté. Elle avait une sorte de mauvaise chemise fermée au poignet, une jupe rouge et un maillot blanchâtre. Son dos était arrondi comme par le poids d'une misère trop lourde, et son visage, sillonné de rides, cuit par le soleil, où la pluie semblait avoir creusé de larges rigoles, avait une expression triste et abrutie. L'homme fit signe au gamin de cesser de tourner l'orgue. Il commença son boniment. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix glapissante, vous allez assister à un spectacle extraordinaire, tel que personne sur la place de Paris serait capable d'en montrer un semblable. Vous entrez au cirque Franconi, au cirque Boutor. » Le pauvre homme en était resté à Monsieur Boutor. Vous payez 3 francs, et vous ne voyez rien d'aussi étonnant, d'aussi admirable, d'aussi rare que ce qui va vous être montré dans quelques instants. Madame, que voici ! Et il désigne sa compagne, dont le travail a été applaudi par tous les souverains de l'Europe, ne craint pas de rival. Elle a été justement surnommée la reine des saltimbanques, fille d'un Hercule célèbre et d'une mère qui avait la beauté plastique d'une déesse, elle est douée d'une force sans égale. Vous la verrez tout à l'heure jongler avec des poids que le plus fort d'entre vous pourrait à peine remuer. Oui, mesdames, des poids de 20, de 100, de 150 kilos ne pèsent pas plus dans sa main vigoureuse que l'ombrelle avec laquelle vous abritez en ce moment vos traits contre l'ardeur du soleil. Il gelait, le pauvre homme frissonnait dans son maillot trop mince, mais il respectait scrupuleusement le texte du boniment. « Approchez-vous, mesdames et messieurs. On va jouer un morceau, et pendant ce temps-là, vous donnerez à Madame Laetitia, la reine des saltimbanques, un petit encouragement. Ce ne sont pas des pièces blanches que nous vous demandons. Vous ne donnerez pas des 2 et des 3 francs comme ici en face. » Il montrait le cirque Fernando. Vous écouterez votre générosité naturelle, et dès qu'il y aura 10 sous sur le tapis, Madame Laetitia commencera. Alors, 10 sous seulement. L'orgue essoufflé se mit à tourner précipitamment et lança ses notes aiguës qui semblaient des appels désespérés à la charité des assistants. 2 ou 3 sous longuement espacés vinrent tomber sur le tapis au pied du vieillard. Il frappait dans ses mains, autant pour se réchauffer que pour stimuler la générosité du public. Mais on riait en regardant ces deux vieux, et le travail qu'on attendait d'eux semblait assez payé par cette mince aumône. Il fit taire l'orgue de nouveau et reprit son boniment. Il fut pressant, persuasif, ironique, mais en vain. Cette nouvelle dépense d'éloquence ne lui rapporta que 2 sous donnés avec peine. Alors, dans le but d'allumer la curiosité du public, il fit signe à sa vieille compagne de venir sur le tapis. Elle se leva lentement et s'avança en balançant ses longs bras maigres, où l'on cherchait en vain les traces des biceps paternels et de la beauté plastique de la déesse, sa mère. Elle resta là, en face du public, lourde et triste, sans regard, attendant l'ordre du vieillard. Jeanne, à qui un pareil spectacle répugnait, voulut entraîner Georges, mais l'enfant résista, alléché par les promesses du boniment. « Tenez, messieurs, dit le vieux saltimbanque, Madame Laetitia consent à vous donner un échantillon de son travail à titre de réclame pour que vous n'hésitiez plus à payer de quelques malheureux sous des exercices uniques au monde. Elle va porter à bras tendus dans chaque main un poids de 20 kilos. Alors, un peu de générosité, on va commencer. » L'orgue grinça et le vieillard jeta autour de lui des regards où se lisait l'angoisse. Mais rien ne venait. Impatientés par la longueur de préambule, plusieurs curieux commençaient même à déserter le cercle. Encore quelques instants et les deux vieillards n'auraient plus personne autour d'eux. L'homme se décida à faire travailler sa vieille compagne. Il approcha d'elle 2 poids de 20 kilos. Alors, comme une bête de somme, elle se baissa lentement et saisit avec ses vieilles mains ridées les anneaux des poids. Ses longs bras se tendirent et on vit se gonfler les veines de son cou décharné. Elle souleva les poids avec peine, puis s'étant à peu près redressée, elle s'arrêta. Sa tête branlait sous l'effort qu'elle faisait. Elle écarta les bras et voulut les lever de chaque côté de son corps. Mais avant qu'ils puissent prendre la position horizontale, elle lâcha les poids épuisés et ils allaient rouler autour d'elle sur le tapis. Un ricanement accueillit cet essai malheureux. La femme ne parut pas entendre et elle resta indifférente, essoufflée, le dos rond sous les rires. Mais le vieillard s'avança vers les rieurs et leur montrant sa vieille compagne avec un geste tragique. « Elle n'a pas mangé depuis hier, dit-il, et moi non plus. Oh, si je n'avais pas eu le bras cassé, vous verriez comme je travaillerais malgré cela. Mais elle n'a pas de la force. » Et en même temps, il jeta un regard lamentable sur la maigre recette de la journée. Le public indifférent commençait à déserter la place, lorsque tout à coup un jeune homme s'élança au milieu du cercle et vint se placer auprès du vieillard. Il portait un élégant complet de drap anglais. Un chapeau de feutre mou était posé sur ses cheveux blonds. Son clair regard exprimait l'audace et la franchise. « Mes amis, ne vous en allez pas !» s'écria-t-il. « Vous voyez bien que ces pauvres gens meurent de faim. Les abandonnerez-vous parce qu'ils sont vieux et qu'ils ne peuvent plus travailler ? Vous voulez des tours de force ? Attendez, on va vous en donner !» Et en disant ces mots, il déboutonna rapidement son veston et se jeta sur l'orgue de Barbarie. « Seulement, ajouta-t-il, je ne commencerai que lorsqu'il y aura 100 sous devant moi, et pour ne pas vous faire attendre, je commence par les y mettre. » Il prit une pièce de 5 francs dans la poche de son gilet et la jeta devant lui sur le tapis. Le cercle des curieux se resserra, intéressé par l'allure hardie de ce jeune homme et par sa singulière fantaisie. « Attention » cria-t-il, « et en avant la musique !»« Au poids de 20 kilos d'abord !» Le gamin, chargé de la partie musicale, avait probablement le ventre aussi creux que les deux saltimbanques. Cela ne l'empêcha pas de tourner avec frénésie son horrible instrument, qui semblait maintenant pousser des cris de victoire. L'Hercule amateur avait pris les poires, et après les avoir tenus quelques instants à bras tendus, il les lança en l'air, les recevant sur le dessus de la main, les faisant passer par-dessous sa jambe, jonglant enfin avec ses lourds morceaux de fer, sans paraître faire le moindre effort. Le peuple, toujours avide de ce spectacle et grand admirateur de la force, battit des mains à une si grande vigueur, jointe à une incomparable adresse. Sans laisser à l'enthousiasme le temps de se refroidir, le jeune homme prit son chapeau et fit rapidement le tour de la société. Les sous pleuvaient maintenant, accompagnés de quelques pièces blanches. Alors, reprenant sa place sur le tapis, après avoir jeté à terre la recette, « Je savais bien, dit-il, que de braves ouvriers comme vous ne voudraient pas laisser mourir de faim ces pauvres gens. Vous avez été généreux, on va vous récompenser. Seconde partie, au boulet maintenant. » Il ramassa deux énormes boulets et commença à jouer avec eux comme s'ils eussent été en bois au lieu d'être en fer. Il les faisait rouler le long de son bras, derrière son cou, et les tenait superposés dans une seule main. Parmi les spectateurs, c'était du délire. On applaudissait à tout rompre. Il y avait maintenant 200 personnes autour de lui. « Allô !» dit-il en lançant les boulets à côté de lui. « Une seconde tournée, maintenant !» Et prenant son chapeau, il recommença à faire la quête, qui fut plus fructueuse encore que la première fois. Alors, versant auprès du vieux saltimbanque étonné, ahuri, le contenu de son chapeau. Ramassez cela, mon brave, dit-il, et allez manger. Mes amis, ajouta-t-il en se tournant vers l'assistant, je vous remercie, à une autre fois. Et riant du succès de son originale et charitable idée, il alla reprendre son veston et disparut dans la foule. Mais au moment où il sortait du cercle émerveillé des spectateurs, Jeanne se trouva sur sa route. « Monsieur, dit la jeune fille avec émotion, ne me reconnaissez-vous pas ?» Il mit son chapeau à la main, un peu interdit, cherchant dans ses souvenirs. « Je suis mademoiselle Lasséda, reprit-elle. Et vous, monsieur, si je ne me trompe, vous êtes monsieur Patrick Occhedi ?»« Oh, mademoiselle, s'écria le jeune Irlandais avec un peu de confusion, oh, je vous demande pardon. » Je ne vous ai pas reconnu tout d'abord. J'étais si peu préparé à vous rencontrer ici. Oh, je suis très heureux de vous revoir. J'aurais précisément besoin d'avoir avec vous un entretien de quelques instants. Je demeure près d'ici, répliqua Jeanne, 20 boulevard de Clichy. Si dans une heure vous êtes libre... Oh, dans une heure certainement, mademoiselle. Si toutefois ma visite ne vous dérange pas... « Elle me fera plaisir, au contraire. » Il la salua respectueusement et s'éloigna d'un pas rapide pour éviter la curiosité de la foule qui commençait à s'amasser autour de lui. Lorsque, une heure après, Patrick Occhedi fut introduit chez Jeanne, M. Bidache était auprès d'elle. La jeune fille venait de lui raconter la singulière rencontre qu'elle avait faite à Clamart, puis elle avait mis au courant des graves confidences de M. Mérantier. M. Bidache avait accueilli avec un vif intérêt ces révélations si importantes. « Mon Dieu, mademoiselle, dit Patrick en s'asseyant dans le fauteuil qu'elle lui avait désigné, voici déjà quelque temps que je voulais venir vous trouver pour prendre de vos nouvelles, mais jusqu'à présent j'ai été absorbé par les soins de mon installation. M. Ravenoux m'a tenu au courant des affaires de la banque. C'est un désastre. « Et je vois, mademoiselle, dit-il en jetant un regard autour de lui, je vois que vous en supportez courageusement votre part. Dans ces conditions, je n'avais qu'un parti à prendre. Je vous ai dit que la somme déposée par moi chez monsieur votre père ne m'appartenait pas. J'ai fait liquider ma modeste fortune, qui s'élevait à peu près à 500 000 francs, et j'ai remboursé les fonds qui m'avaient été confiés. Mais alors, monsieur, vous êtes complètement ruiné. Il ne vous reste plus rien, dit Jeanne avec un accent douloureux. Bon, ma foi, il ne me reste pas plus grand-chose, en effet, mais bon, tôt ou tard, cet argent aurait été rejoindre celui que m'ont déjà coûté mes folies de jeunesse. Cette ruine est peut-être un bien, dit-il d'un air insouciant. Mais comment vivez-vous ? Je travaille, fit-il gaiement. Vous avez pu constater tout à l'heure, mademoiselle, que je suis d'une assez jolie force aux exercices du corps. J'ai beaucoup pratiqué dans mon pays l'escrime et la boxe. Ce sont deux arts qui en ce moment sont très à la mode à Paris. J'ai quelques relations, d'excellents amis auxquels j'ai fait appel. J'ai fondé une salle d'escrime et ma foi, cela marche fort bien. Si vous saviez, reprit-il avec feu, quel plaisir j'éprouve à me dire que je travaille, que je gagne mon pain, que je me rends peut-être utile. C'est un bonheur que je ne connaissais pas autrefois. Aussi cette catastrophe que j'ai d'abord accueillie avec un violent dépit, d'autant plus que je craignais que mon honneur ne fût mis en cause, je ne l'abolis plus maintenant. Et si un jour je devais retrouver ma petite fortune, il me semble qu'elle me gênerait. Il n'y a qu'une chose qui me tourmente, par exemple. J'ai lu dans un journal anglais que Sir John Fitzgerald est arrivé à Nguyen Fourou, dans la partie du Sénégal où se fait la chasse aux lions. Et je tremble à chaque instant d'apprendre qu'il a accompli quelque exploit qui me désespérerait. Monsieur Bidache ouvrait de grands yeux et regardait avec étonnement l'excentrique gentleman. Jeanne présenta les deux jeunes gens l'un à l'autre. « Si je découvre jamais les assassins de mon père, dit-elle, si ça m'aurait vengé, si je puis réhabiliter sa mémoire et désintéresser ses créanciers, c'est à monsieur Bidache que je le devrais. » Et en peu de mots, elle raconta au jeune Irlandais, émerveillé, tout ce que l'ancien employé de la préfecture avait fait pour arriver à la découverte de la vérité. À mesure qu'elle parlait, l'attitude de Patrick, le feu qui brillait dans ses yeux, indiquait le puissant intérêt que lui inspirait ce récit. Quand Jeanne eut terminé, il tendit la main au jeune homme avec un geste plein de franchise et de cordialité. Vous vous dévouez là à une œuvre généreuse, monsieur, lui dit-il avec élan, et je fais des vœux bien sincères pour que vous réussissiez. En vérité, vous ne pouvez croire à quel point cela m'intéresse, et je vous jure que si jamais vous aviez besoin de moi... Qui sait, dit monsieur Bidache avec un sourire. Il nous faudra peut-être à un moment donné une poigne vigoureuse, un auxiliaire audacieux. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. Venez me voir demain, voulez-vous, nous causerons. Et si vous me donnez un rôle à jouer dans votre périlleuse et difficile entreprise, je vous en serai reconnaissant. Je suis un peu Don Quichotte de ma nature et j'aime me battre contre les méchants. Témoins, mes chasses aux fauves. Oh, vous avez à Paris des bêtes féroces, bien dangereuses. Et si je pouvais en détruire quelques-unes, je m'estimerais fort heureux. Tenez, pour ne vous citer qu'un exemple récent. J'ai parmi mes amis et aussi parmi mes meilleurs élèves un gentilhomme napolitain, le comte de Caserte. Ah oui, celui qui a été attaqué il y a 8 jours, êtes-vous ? Interrompit vivement M. Bidache. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Oui, j'ai lu dans les journaux le récit de cette agression. Ce qu'on raconte est-il exact ? Très exact. C'est l'histoire de l'assassin s'enfuyant dans une voiture de maître. Rien de plus vrai, oui. Le bandit a eu l'audace de jeter par la portière aux agents qu'il poursuivait les haillons qui formaient son costume. Et M. de Caserte, qui va aujourd'hui beaucoup mieux, a demandé au commissaire de police de lui donner ses vêtements qu'il conserve en souvenir de cette aventure. M. Bidache resta silencieux pendant quelques instants. Il voyait là l'occasion de suivre une nouvelle piste, et malgré lui, il se sentait attiré par l'attrait de l'inconnu. « Ne pourrais-je pas voir ces vêtements ? » demanda-t-il. « Oh, une simple curiosité, remarquez bien, mais Nous trouvons quelquefois un indice là où les autres n'aperçoivent rien. Rien ne sera plus facile. Je vous ai déjà prié de venir demain chez moi. Bien, en sortant, j'irai prendre des nouvelles de M. de Caserte. Il vous montrera ses haillons et vous donnera tous les renseignements que vous pourrez désirer. J'ajoute qu'il promet 100 000 francs à celui qui découvrira son assassin. Oh, je ne travaille que pour mon plaisir, nullement par intérêt, dit M. Bidache en rougissant. Patrick O'Kedy se leva et tendit à Jeanne sa main loyale. Mademoiselle, dit-il, je vous suis profondément touché de voir avec quel courage vous supportez votre triste position. Si jamais vous avez besoin d'un second dévouement, faites appel à Patrick O'Kedy. Il sera trop heureux de vous offrir ses services. Jeanne le remercia du fond du cœur. Lorsqu'elle mit sa main dans celle du jeune homme, l'émotion la faisait trembler. Mais cette émotion n'était peut-être pas seulement causée par l'allusion qu'il venait de faire aux pénibles difficultés de sa situation. Quand Patrick fut sorti, Jeanne se tourna vers M. Bidache. « Et maintenant, lui dit-elle, que comptez-vous faire pour mettre à profit les indications que nous a données M. Mérantier ?»« Cette affaire mérite d'être examinée sérieusement, » répondit M. Bidache en hochant la tête. Je suis persuadé, moi aussi, que l'individu qui a fait cette tentative de chantage n'est autre que l'auteur principal ou le complice de l'assassinat de votre père. Mais il faut procéder avec une prudence extrême. Vous comprenez que nous avons affaire à un gaillard habile et que toutes ces précautions sont prises. Faire arrêter Georges, le marchand de vin, et l'interroger sur cet individu qui se fait appeler Gustave, mauvais moyen. Le marchand de vin ne parlera pas. Il dira qu'il ne connaît pas ce Gustave. Faire cerner la maison et prendre tout ce qu'on y trouvera, parmi lesquels sera sans doute ce bandit. Détestable, car il doit avoir des complices, et ses complices le vengeront en déshonorant M. Mérantier. Il y aura peut-être un moyen, dit-il après avoir encore réfléchi. Lequel ? Demanda Jeanne anxieuse. Bien, il faudrait s'introduire chez ce marchand de vin sous un déguisement, examiner les habitués de l'endroit, tâcher de surprendre un mot, un indice. Il rêva encore quelques instants. Son imagination ardente développait le plan qu'il avait conçu. « Avez-vous le moyen de voir M. Mérantier aujourd'hui ? » reprit-il vivement. « Oh, rien n'est plus facile. » « Eh bien, dites-lui d'écrire immédiatement à ce Gustave par l'intermédiaire du marchand de vin, comme on le lui demande. Il pourra dire dans cette lettre qu'il consent à faire un sacrifice pour éviter le scandale dont il est menacé, mais qu'il désire discuter le prix demandé. Enfin, n'importe quoi. L'important, c'est qu'une lettre soit écrite et qu'il l'envoie de manière à ce qu'elle arrive par le courrier du soir vers 9 heures. Je serai là, moi, dans la salle du cabaret, et je tâcherai de voir à qui elle sera remise. Mais ce cabaret doit être un coupe-gorge, dit Jeanne avec inquiétude. Et si on vous reconnaît ? Oh, soyez tranquille, mademoiselle, on ne me reconnaîtra pas. D'ailleurs, pour plus de sûreté, je demanderai à ce jeune homme, qui était ici tout à l'heure, de vouloir bien m'accompagner. À nous deux, nous n'aurons rien à craindre. « Ah, c'est cela, dit Jeanne, je serai plus rassurée si je vous sais sous la protection de ce brave cœur. Maintenant, ne négligez pas non plus Greniche. Si vous parvenez, comme c'est possible, à le ramener au bien et à vous l'attacher, nous aurons peut-être en lui un précieux auxiliaire. Dès demain, j'irai voir sa mère. À merveille, alors ne perdons pas de temps. Alors, dit M. Bidache, en se levant pour prendre congé de la jeune fille, j'ai bon espoir. Et je crois que nos affaires marchent assez bien. C'était rue d'Anjou, presque en face de la photographie Nadar, que Patrick O'Kedy avait installé sa salle d'armes. Il avait loué à cet effet une vaste boutique vide depuis longtemps, et après avoir fait fermer la devanture au moyen de carreaux dépolis, il avait aménagé l'intérieur simplement mais avec goût. Il venait passer chaque année quelques mois à Paris, où il comptait de nombreux amis dans le monde des arts et de la politique. Il trouva facilement, parmi ses relations, le noyau de sa clientèle. On connaissait sa force extraordinaire, sa science consommée de l'escrime, et ses leçons furent bientôt très recherchées. Il avait donné rendez-vous à M. Bidache vers 4 heures. C'était le moment où la leçon finissait. Le doux M. Bidache fut d'abord un peu étonné de se trouver au milieu de ce cliquetis de fleurets, dans ce bruit produit par les appels du pied, et de voir tous ces hommes masqués, parmi lesquels il lui était assez difficile de deviner le maître de la maison. Patrick le reconnut le premier et s'aperçut de son embarras. Autant vivement son casque, la main tendue. « Oh, veuillez m'attendre quelques instants, cher monsieur, » dit-il en lui montrant une pièce attenante qui lui servait de cabinet. « Je finis de donner une leçon et je suis à vous. » De l'endroit où il était assis, M. Bidache put admirer la belle prestance de Patrick, son incomparable agilité, sa merveilleuse adresse. « Ben alors, » se dit-il, « voilà bien l'homme qu'il me faudra ce soir. » Un quart d'heure après, la nuit étant venue, les habitués quittèrent la salle d'armes. Patrick monta à l'entresol où était situé son modeste logement, changea vivement de costume et vint retrouver M. Bidache au bout de quelques minutes. Ils sortirent ensemble et se dirigèrent d'un bon pas vers la rue d'Aumale, où demeurait M. de Caserte. Chemin faisant, M. Bidache fit part au jeune Irlandais de ses projets et lui dit quel rôle il désirait lui destiner dans sa dangereuse expédition. Mais, respectant le secret de M. Mérantier, il ne lui révéla point dans quel but cette expédition était tentée. Patrick fut ravi de l'aventure qui se préparait. « Je serai votre homme, dit-il. J'ai bien souvent couru la nuit sous un déguisement les tavernes de Dublin et de Londres, et avec un peu d'étude, je suis arrivé à prendre parfaitement la mine et l'allure d'un respectable ivrogne. Je vous promets que je jouerai bien mon rôle. » Oui, eh bien, je vous conduirai tout à l'heure chez le père Boussemich, notre costumier, et nous choisirons notre déguisement. Ils trouvèrent le comte de Caserte étendu sur une chaise longue. Il était pâle et sans force, mais cependant il allait beaucoup mieux, et le médecin répondait absolument de lui. Il tendit la main à Patrick, qui lui présenta M. Bidache, et lui exposa le but de leur visite. « Ah, monsieur, vous êtes de la police, » dit le comte de Caserte avec vivacité. « Eh bien, je vous avertis que je donne 100 000 francs. »« Non, je me suis mal expliqué, » reprit Patrick O'Kady. « Monsieur recherche les criminels par plaisir, par dilettantisme, nullement dans un but intéressé, et il n'appartient pas à la police. » « Je serais fâché de recevoir une récompense quelconque, » dit M. Bidache en rougissant, très intimidé par le luxe qui régnait autour de lui et ne sachant où s'asseoir au milieu de cet encombrement de bibelots. « Oui, monsieur Bidache, je voudrais voir les vêtements de l'homme qui vous a attaqué, » répondit Patrick. « Rien de plus facile, » dit le comte de Caserte. Il appuya sur le bouton d'une sonnette électrique qui était à la portée de sa main. Lorsque son valet de chambre parut, il lui donna l'ordre d'apporter les guenilles que le commissaire de police lui avait envoyées sur sa demande. M. Bidache examina la blouse, le pantalon et la casquette. Il remarqua qu'une des manches de la blouse était teinte de sang près du poignet. Il eut un mouvement de surprise. « Pardon, monsieur, » dit-il, s'adressant au comte, « c'est bien au côté droit que vous avez été frappé, n'est-ce pas ?» « Oui, parfaitement, voici la place, » répondit M. de Caserte en indiquant un point sur sa poitrine. « C'est vraiment singulier, » murmura M. Bidache, comme s'il se fût parlé à lui-même. « Auriez-vous quelques soupçons ?» fit le comte avec une nuance d'incrédulité, car il ne pensait pas que ces vêtements, qui avaient été visités et palpés par le commissaire de police et par plusieurs agents, puisse contenir une révélation quelconque. Mais M. Bidache répondit à la question de M. de Caserte par une autre question. Avez-vous remarqué avec quelle main il vous a frappé, la gauche ou la droite ? Le comte parut assez étonné de cette demande. Attendez donc, fit-il en réfléchissant. Voici pourquoi je désire voir ce renseignement, reprit M. Bidache. C'est le poignet gauche de cette manche qui est souillée de sang. Il y a donc tout lieu de croire que cet homme est gaucher. Ah, en effet, dit le comte, je m'en souviens maintenant. C'est la main gauche qu'il a levée sur moi. Et c'est probablement aussi avec cette main qu'il m'a dévalisé. Vous avez parfaitement raison, et votre observation est très juste, quoique je ne comprenne pas bien quel intérêt. Vous reveniez tous les soirs du cercle à pied. Oui, j'avais cette habitude, cette mauvaise habitude. Et cette nuit-là, vous aviez gagné une somme importante. Oui, la partie avait été très grosse, et il devait y avoir dans mon portefeuille 5 000 louis. Si votre voleur fait souvent des coups de cette importance, je ne m'étonne pas qu'il roule carrosse, observa Patrick en souriant. Je n'ai plus rien à vous demander, monsieur le comte, dit monsieur Bidache. Je vous prie de m'excuser si je vous ai dérangé. Mais pas le moins du monde, monsieur, fit monsieur de Caserte en lui tendant la main. Vous me semblez singulièrement intelligent et quelque chose me dit que si mon assassin ne doit jamais être découvert, c'est par vous qu'il le sera. Monsieur Bidache rougit modestement. « Mon Dieu, monsieur le comte, dit-il, vous savez, un peu d'habitude, le goût du métier. » Il salua à plusieurs reprises et sortit avec Patrick au Kennedy. « Maintenant, fit monsieur Bidache, lorsqu'ils furent dans la rue, nous allons chez le père Brousmiche. »« Qui est celui-là ? » demanda Patrick. « Oh, un type curieux, vous allez voir. »« Et qui demeure ? » ?»« Rue de la Tour d'Auvergne. » Un quart d'heure après, M. Bidache, suivi de son robuste compagnon, gravissait l'escalier noir et étroit d'une maison de la rue de la Tour d'Auvergne. « Est-ce bien haut ?» demanda Patrick. « Au 5e étage. » Quand ils furent arrivés au dernier palier, M. Bidache s'arrêta devant une petite porte sur laquelle était collée une carte ainsi rédigée « Brousmiche, ancien inspecteur ». Mais la carte ne disait pas à quel genre d'inspection M. Brousmiche s'était livré pendant le cours de sa carrière. M. Bidache sonna, et bientôt un grand vieillard, encore très vert, portant la moustache grise et la redingote boutonnée jusqu'au col comme un ancien militaire, vint leur ouvrir. « Eh ben, c'est le petit Bidache, » dit-il en tendant la main au jeune homme. « Il y a longtemps qu'on ne t'a vu, mon garçon. » M. Brousmiche était un ancien inspecteur de la Sûreté, et c'est avec lui que M. Bidache avait débuté quelques années auparavant. Le vieux policier avait toujours conservé le meilleur souvenir de l'intelligence et de la singulière dextérité de son ex-collaborateur. Lorsqu'ils eurent échangé les premiers compliments, « Mon cher M. Brousmiche, dit le jeune homme, voici pourquoi nous sommes venus vous trouver. » Nous désirerions, monsieur et moi, enfin, vous comprenez, et il lui fit un signe d'intelligence. Bon, parfaitement, répondit le père Brousmiche. Monsieur est-il aussi de la partie ? Demanda-t-il en montrant Patrick. Non, non, c'est un amateur. N'importe, on conduit par toi, il est le bienvenu. Donnez-vous donc la peine d'entrer. Monsieur Brousmiche ouvrit la porte d'une chambre assez vaste, et Patrick ne fut pas peu étonné du singulier aspect que présentait cette chambre. Des cordes la traversaient en tous sens, et sur ces cordes étaient pendus en grand nombre les vêtements les plus divers et les plus étranges. Dans le fond se dressaient deux hautes armoires. M. Brousmiche avait la spécialité de fournir aux agents de la Sûreté des déguisements qui leur sont utiles dans leur mission secrète. Il avait vu, durant sa carrière, plusieurs de ses missions échouer à cause du peu de soins que les agents qui en étaient chargés avaient mis à dissimuler leur véritable qualité. Ne pouvant, à cause de leur traitement modique, avoir un choix complet de vêtements, de fausses barbes, etc., ils se contentaient parfois d'un déguisement insuffisant, qui, loin de les protéger, les désignait au contraire aux soupçons des coquins qu'ils devaient surveiller ou arrêter. Après avoir pris sa retraite, M. Brousse-Miche avait sollicité et obtenu de la préfecture de police une petite subvention à l'aide de laquelle il s'était mis à monter l'étrange vestiaire qu'admirait en ce moment Patrick O'Kady. Moyennant une monique rétribution, les agents trouvaient là tout ce qui leur était nécessaire, depuis le frac de l'homme du monde, l'uniforme de l'officier, la soutane du prêtre, jusqu'à la blouse crasseuse du voyou. Et M. Brousse-Miche, qui était un artiste en son genre, ne se contentait pas de louer le costume. Quand on l'avait revêtu, il vous faisait passer dans une petite pièce, sur la porte de laquelle était peint ce mot « laboratoire », et là, on trouvait un assortiment complet de postiches en tout genre. M. Brousse-Miche les essayait lui-même à ses clients, puis à l'aide de cosmétiques, de crayons, de blancs, etc., il complétait la tête de façon qu'elle fût en parfaite harmonie avec le costume. « Toi, je vais te donner un serrurier, » dit l'ancien inspecteur en mettant la main sur l'épaule de M. Bidache. « Ce sera ton affaire. Quant à vous, monsieur... » Il regarda quelques instants Patrick avec attention. « À vous, » décida-t-il, « il faut un maçon. Vous avez les mains fines. Vous allez me mettre là-dessus des côtes de plâtre pour les cacher. Attendez-moi un instant dans le laboratoire. » Il revint bientôt apportant les costumes qu'il avait annoncés. Patrick et Bidache les revêtirent aussitôt. M. Brousse-Miche les fit ensuite asseoir devant une glace et rapidement leur arrangea la tête. Quand il eut fini, il les plaça debout l'un près de l'autre et se recula pour admirer son œuvre. Une grosse lampe à la main, il vint leur mettre une dernière touche, comme le peintre qui termine un tableau, pencha la casquette davantage, arrangea la cravate, puis faisant de nouveau deux pas en arrière, « Parfait !» prononça-t-il d'un air satisfait. « Si avec cela vous avez le bagout qu'il faut, celui qui vous dépistera sera malin. » Quelques instants après, M. Bidache et Patrick remontaient la rue des Martyrs. M. Brousse-Miche pouvait être content de lui-même. Les deux jeunes gens étaient méconnaissables. M. Bidache portait la veste noire, la casquette plate et le pantalon de velours usé du serrurier. Il avait les mains et le visage noir et un bout de cigarette pendait entre ses lèvres. Il marchait un peu courbé, portant son sac à outils sur l'épaule. Patrick, avec sa grande blouse blanche, son pantalon rapiécé et taché de plâtre, sa barbe qui semblait pleine de poussière, de chaux, et ses gros souliers également blanchis, avaient tout à fait l'apparence d'un robuste limousin. Nous allons dîner chez un marchand de vin que je connais au coin de la rue Bochard de Scarron, et dit M. Bidache. Il faut s'habituer un peu au costume avant d'arriver là-bas. Vers 6 heures, ils étaient attablés dans la salle du marchand de vin, au milieu d'une trentaine d'ouvriers assis à de petites tables. Patrick dévorait avec un bel appétit un morceau de bœuf nature et buvait sans sourciller le vin qui laisse au fond du verre un résidu bleuâtre. Ils sortirent à 7 heures et s'en allèrent le long des boulevards extérieurs, du pas traînant et nonchalant d'ouvriers en balade. Tout en marchant, M. Bidache faisait à Patrick quelques recommandations. Il avait pris le matin même, auprès d'un de ses anciens collègues, des renseignements sur le cabaret du père Jaure. C'était là que se réunissait la fleur des gredins du quartier et les mauvais ouvriers sans travail. Le père Jaure avait en outre la spécialité de prêter sur gage à sa clientèle, et il était en soi peu receleur. La police tolérait son établissement, parce que de temps en temps elle avait l'occasion d'y faire un bon coup de filet. Mais il fallait se méfier, car les escarpes qui fréquentaient ce cabaret étaient rusées et dévisageaient avec soin toute la figure inconnue. On avait conseillé à M. Bidage d'emporter un revolver dont il ne devait faire usage cependant qu'à la dernière extrémité. Il avait mis cette arme au fond de son sac de serrurier. Vers 9 heures, ils poussèrent la porte du cabaret du père Jaure. On descendait 2 marches pour arriver à la salle. Autour de cette salle étaient placées des tables noirâtres et des chaises de paille. Le milieu était occupé par un poêle qui ronflait. Au fond, près d'une porte, se dressait un comptoir étroit à dessus de marbre où trônait ordinairement le père Jaure. On ne consommait pas sur ce comptoir. Tous les habitués étaient assis et servis par un garçon d'une 20aine d'années, à l'air abruti et qui semblait dormir debout. À gauche, une ouverture sans porte donnait sur une salle plus petite où on voyait un billard éclairé par de lampes à pétrole. Lorsque Patrick et M. Bidache entrèrent dans la salle, il y avait peu de consommateurs. La clientèle n'arrivait qu'après minuit, quand tout dormait dans le quartier et que les volets clos pouvaient faire croire que le cabaret était fermé. Ils allèrent s'asseoir près d'une table placée de telle façon qu'on pouvait surveiller au besoin ce qui se passait dans la salle de billard, se firent servir un café et demandèrent des cartes. Ils parurent s'absorber dans leur piquet et restèrent penchés sur les cartes graisseuses. 9h30 venait de sonner, lorsque la porte du cabaret s'entr'ouvrit, mais personne n'entra. Le garçon alla voir ce qu'on voulait. C'était le facteur. L'honnête fonctionnaire ne se souciait pas de pénétrer dans ce repère, et après avoir remis ses lettres, il continua sa tournée. Le garçon tenait 2 lettres à la main. Il les porta à son patron, qui était assis dans son comptoir élevé, et fumait sa pipe, la calotte sur la tête, comme un portier débonnaire. Le père Jaure prit les 2 lettres et les regarda un instant. Il mit l'une d'elles dans un tiroir fermé à clé. L'autre, il la décacheta, la lut, puis en fit une boulette qu'il jeta à ses pieds. M. Bidache, bien qu'il parût en ce moment uniquement préoccupé de son écart, n'avait pas perdu de vue ce qui venait de se passer. Il avait remarqué que 2 ou 3 fois, le père Jaure avait jeté un coup d'œil de leur côté, comme s'il eût été surpris ou inquiet de voir chez lui des figures qui n'étaient pas de connaissance. M. Bidache, que devoir le rassurer. À un moment donné, il se leva et alla d'un pas traînant vers le comptoir. « Dis donc, patron, » fit-il d'une voix enrouée, « on m'a dit que t'étais un bon zig qui avait pas peur de venir en aide aux camarades dans l'embarras. L'ami avec lequel je joue vient de me gagner tout mon sein frusquin. Est-ce que tu pourrais pas me prêter quelque chose là-dessus ?» Et il tira de sa poche une mauvaise montre d'argent et la présenta au père Jaure. Celui-ci mit ses lunettes et l'examina. « Je te l'achète 100 sous, si tu veux, » dit-il. « 100 sous, c'est pas cher. » Ils discutèrent quelques instants, puis enfin M. Bidache vint reprendre sa place. Le marché était conclu et le marchand de vin, quittant un instant son érogue, descendit du comptoir et vint offrir aux 2 compagnons un verre de fine. Ils restèrent à jouer jusqu'à minuit. Le cabaret s'emplissait peu à peu. À tout instant, la porte s'ouvrait et 1 ou plusieurs hommes entraient, déjà gris, et allaient tomber aux rares places qui étaient vides. Lorsqu'on ferma les volets, Patrick et son compagnon cessèrent de jouer. Le jeune Irlandais, changeant de place, vint s'asseoir à côté de M. Bidache, le dos au mur, de manière à voir ce qui se passait dans la salle. Des tourbillons de fumée âcre montaient jusqu'au plafond, qui semblait couvert d'une couche de bitume. Une conversation grossière, violente, s'établissait de tous côtés. Des discussions entremêlées de jurons s'élevaient, et dominant les cris et les menaces, on entendait parfois des voix de femmes qui essayaient de faire taire les soulards. car il y avait des femmes dans ce bouge. De hideuses créatures qui arrivaient à là, éreintées de leur éternel va-et-vient du boulevard, et qui venaient demander à l'alcool un peu de force pour continuer le métier. Et à côté d'elles, leur serrant la taille ou leur parlant à l'oreille, on voyait des hommes au visage terreux, portant la casquette de soie et la croche-cœur, signe distinctif de l'honorable corporation qui règne sur ces hauteurs. Dans un coin, trois hommes étaient réunis autour d'une table et causaient à voix basse. Un individu, un petit et trapu, entra bientôt et vint les rejoindre. Mais il se contenta de demander un bref renseignement au plus jeune, qui paraissait à peine 18 ans. Il alla ensuite trouver le père Jorre à son comptoir. Ce n'était pas la première visite que recevait le marchand de vin. Deux ou trois fois même, il avait emmené des clients dans une petite pièce obscure dont la porte donnait près de l'endroit où il se tenait, et M. Bidache avait remarqué ce manège avec une certaine inquiétude, craignant de ne pas pouvoir observer ce qu'il avait tant d'intérêt à connaître. « Bonjour, Leboeuf !» dit le père Jorre en tendant la main à l'homme qui venait de l'aborder. « Y a-t-il quelque chose pour ton service ?» Leboeuf se pencha à l'oreille du père Jorre. Celui-ci ouvrit un tiroir, prit la lettre que le facteur lui avait remise et la glissa dans la main de l'homme qui aussitôt la mit au fond de la poche de son veston. Ils restèrent encore quelques instants à causer, puis Leboeuf alla rejoindre ses camarades. « Il a dû lui donner la lettre, » dit M. Bidache, qui avait vu le mouvement rapide du marchand de vin. Et il fixa son regard sur la physionomie lourde et bestiale de cet individu, comme s'il eût voulu graver dans sa mémoire les traits de ce visage. Était-ce donc là ce Gustave auquel la lettre était destinée? Était-ce le mystérieux assassin de M. Lacéda? Mais M. Bidache eut un doute. Il vit l'homme qu'il observait prendre son verre de la main droite pour le porter à sa bouche, et il le vit fumer ou tenant sa pipe de la main droite. Cette observation le dérouta un peu. Il se pencha vers le jeune Irlandais. « Avez-vous vu, lui demanda-t-il à voix basse, quel est l'objet que cet homme a mis dans sa poche ?»« Non. Alors, je voudrais bien savoir si c'est une lettre et à qui elle est adressée. »« Ben, il faut la lui prendre. Mais comment ?»« Rien de plus facile. Je vais lui chercher querelle et en boxant, je glisserai ma main dans sa poche. » « Oh, prenez garde, tous ces grenins-là se mettront avec lui contre vous. »« Pas sûr, oh, et puis je commence à m'ennuyer, à ne rien faire depuis 3 heures. Je ne serais pas fâché de me donner un peu de mouvement. » Et les trois camarades que Leboeuf était allé rejoindre dans un coin de la salle n'étaient autres que fil de soie, trop de chic et fureton. Ils s'entretenaient à voix basse de l'affaire du loupeur. « Bonne chance, tout de même, » disait Fureton en roulant sa cigarette. « Si ce satané cerveau n'était pas arrivé, l'affaire était dans le sac. Oh, si j'avais été à la place du loupeur !»« Eh ben, qu'aurais-tu fait, propre à rien ?» demanda Fil de Soie. « T'aurais estourbi peut-être le cerveau et le concierge ? Non, c'est trop farce, ma parole. Ça se mêle de donner des conseils, cette vermine !» « Mais j'aurais joué des jambes et personne ne m'aurait attrapé, voilà. »« Tais-toi donc, fond de bain !» dit Trotschik, en balançant sa lourde tête rasée d'ignorantin. « Le loupeur était plus malin que toi, je crois. S'il a été pris, c'est qu'il n'y avait pas moyen de se défiler. »« Faut espérer qu'il jasera pas, » observa Fil de Soie, le nez plongé dans son verre, où il avait fait une étrange mixture d'alcool, de vin et de café. « Jaser, lui !» dit le boeuf, qui venait de reprendre sa place. « On ferait plutôt parler spoil. Il n'a même pas voulu dire son nom. Il a rudement chic, allez, j'ai lu ça dans un journal tantôt. Épaté, le journaliste !» Le boeuf bourra et alluma sa pipe, puis se retournant vers Fureton. « Allez, tu viens faire un billard, Gringalet ?» dit-il. « Bien !» Ils se levèrent et se dirigèrent vers la salle voisine, où le billard étalait sous les lampes fumeuses sa surface râpée, couverte de taches et de traces blanches. Au bout de quelques instants, Patrick les rejoignit et alla se mettre près d'eux, à cheval, sur une chaise. Il fumait en les regardant d'un air insolent, et chaque fois que le compagnon de Fureton manquait un coup, il lui envoyait une plaisanterie sur sa maladresse. « Bon, ben, ça m'embête, ce particulier-là, » dit bientôt le Bœuf, peu patient de son naturel, et qui était habitué à voir les clients de ce bouge respecter sa force prodigieuse. Mais Patrick continua de plus belle à le blaguer chaque fois qu'il en trouvait l'occasion. « Attends, un peu, je vais te donner une leçon, » dit le Bœuf en mâchonnant le tuyau de sa pipe. Et au moment de jouer un coup, il envoya le manche de sa queue si près du visage de Patrick qui lui effleura la joue. Hey, « Eh, ça, espèce de manchot !» dit Patrick. « Est-ce que tu prends ma tête pour une bille, maintenant? A-t-on jamais vu un maladroit comme cet animal-là » « Tiens-moi ça, petit !» dit le Bœuf en allant donner la queue à Fureton, qui se divertissait à l'avance de la correction que le maçon allait recevoir. Le Bœuf éteignit sa pipe, la mit dans la poche de son veston, puis retournant ses manches, il s'approcha du jeune Irlandais. « Ah ça, vas-tu bientôt faire ton sacré bagou ?» lui dit-il en venant lui mettre le poing sous le nez. « Tu dois savoir que je ne suis pas endurant. » Patrick se leva et jeta la chaise derrière lui. « Quoi, des menaces ? » s'écria-t-il en croisant les bras. « T'as sans doute envie que je te casse les os ?»« Toi, ricana le Bœuf, tu vas me toucher ? Oh, je te le défends. Il faudrait un plus malin que toi pour mettre la main sur Bibi. » La salle du cabaret était presque tous les soirs le théâtre de querelles semblables. Il était rare qu'une soirée se passât sans que le Bœuf fût maille à partir avec quelque habitué. Aussi, dès qu'on les vit tous deux, le regard allumé et la menace à la bouche, on se recula afin de faire place. Le Bœuf, baissant la tête, se rua sur son adversaire comme pour lui défoncer la poitrine avec son crâne énorme. Mais Patrick mit les deux mains en avant, arrêta net son élan et le jeta contre une table. Il y eut un murmure d'étonnement. Le Bœuf se redressa et revint les poings tendus. Il voulut envoyer un coup de boxe à l'Irlandais. Celui-ci part à l'attaque avec le bras gauche et frappa son adversaire en pleine poitrine si vigoureusement que le Bœuf alla tomber sur deux consommateurs placés derrière lui. On commençait à s'intéresser à la lutte. On criait et on montait sur les tables, pendant que le père Jorre, indifférent, alignait de petits tas de sucre sur le marbre poisseux de son comptoir. C'était la première fois que le Bœuf se trouvait en présence d'un tel adversaire. On ne l'aimait guère à cause de sa vantardise et de sa manie de quereller tout le monde. On n'était pas fâché de le voir rouler. Rouge, les yeux sortant de l'orbite, il s'était relevé en toussant, car le coup avait été rude. Il s'élança encore sur Patrick comme un taureau furieux. Mais d'un coup de savate au menton, l'Irlandais le rejeta une seconde fois en arrière. « Bravo, le maçon !» cria une voix avinée. Et les connaisseurs hochaient la tête avec admiration. Patrick aurait pu l'assommer s'il avait voulu. Mais ce n'était pas son dessein. Lorsque le Bœuf arriva sur lui pour la troisième fois, il le saisit à bras-le-corps. Alors une lutte s'engagea. Ils se tenaient étroitement serrés, cherchant à se renverser. On entendait le bruit de leurs souffles haletants, on voyait les veines de leurs fronts se gonfler. Les compagnons du Bœuf, fil de soie, trop de chic et Fureton, s'étaient levés. Ils avaient voulu se porter à l'aide de leurs camarades. Mais on les avait retenus, il fallait regarder ça. C'était curieux, ça n'arrivait pas tous les jours. De voir le Bœuf suer sang et eau pour jeter un homme par terre. Monsieur Bidache, lui aussi, avait quitté sa place et s'était rapproché du théâtre de la lutte. Le sac d'outils sur le dos, le revolver à portée de sa main, il avait joué des coudes afin de pouvoir, au besoin, secourir le courageux Irlandais. Le bœuf, avec son énorme carrure, ses jambes courtes et solides, était difficile à renverser, d'autant plus que, dans l'étroit espace où il se mouvait, la lutte était difficile. À chaque instant, ils étaient poussés l'un au côté ou de l'autre, car personne ne se souciait de recevoir sur le corps l'un des deux lutteurs. Le cercle s'était rétréci autour d'eux. On étouffait, et le bœuf, en se débattant, envoyait des coups de pied dangereux. « À la porte » cria-t-on. « À la rue !» hurlèrent d'autres voix. La porte fut ouverte, et en même temps, une poussée formidable jeta dehors les deux adversaires. L'air froid de la nuit sembla ranimer leurs forces. Ils luttaient maintenant au milieu de la chaussée. Quelques curieux les avaient suivis, mais la plupart des habitués du bouge étaient rentrés dans la salle, car il faisait dehors un vent qui coupait la figure. On empêchait toujours, fil de soie et trop de chic, de sortir pour se porter au secours de leurs camarades. Seul Fureton avait pu se glisser dehors. Patrick avait empoigné son adversaire à la ceinture. Il le soulevait de terre et essayait de lui faire perdre pied. Le bœuf râlait, épuisé par cette lutte qui durait depuis plus d'un quart d'heure. Il tint bon encore quelque temps, faisant des efforts désespérés pour échapper à cette horrible étreinte et pour ébranler son adversaire, mais Patrick ne bronchait pas. Enfin, tout à coup, le bœuf trébucha, ses reins ployèrent et il tomba tout de son long au milieu de la chaussée. Patrick, penché sur lui, le maintenait à la gorge d'une main vigoureuse. Au même instant, un homme qui venait d'arriver et auquel Fureton avait dit un mot à l'oreille se précipita sur eux. Il tenait à la main un poignard dont la lame brillait. « Hardi, le Pérou !» hurla le bœuf, qui avait vu arriver ce secours inespéré. L'arme allait retomber entre les épaules de Patrick, lorsque tout à coup une main nerveuse tordit le poignet du Pérou qui fut désarmé. Patrick venait de se redresser. « Sauverons-nous ? » lui dit rapidement Bidache. Et, laissant les témoins de cette scène porter secours au bœuf qui suffoquait à terre, ils s'éloignèrent vivement en rasant les murailles. « Tonnerre de Dieu ! » s'écria le Pérou. « Qu'est-ce qui a osé m'empêcher de chouriner cet homme ?» Il regarda autour de lui, furieux, car l'obscurité de la nuit et la rapidité de cette scène ne lui avaient pas permis de voir la figure de celui qui était intervenu. « C'est le camarade du maçon, un serrurier !» dit Fureton en se rapprochant du chef. Le bœuf s'était relevé. En apercevant le Pérou, son premier mouvement avait été de mettre la main à sa poche. Un épouvantable juron s'échappa de ses lèvres. « Il m'a volé la lettre » cria-t-il hors de lui. « Qu'as-tu donc ?» demanda le Pérou. Cette lettre, tu sais bien, dit le bœuf encore essoufflé de la lutte, cette lettre qui t'était adressée, et que depuis 3 jours je venais réclamer au père Georges de ta part, il me l'a prise dans ma poche. C'était un roussin. Mais tant de brute, et vous ne l'avez pas tué ? S'écria le Pérou en se tournant vers Fil de Soie et Trop de Chic, qui était parvenu à sortir du cabaret et venait d'arriver. Ils baissèrent la tête d'un air consterné. Alors, poussant Fureton par les épaules, « En marche, commandant le Pérou, file-moi ces gens-là et promptement !» Fureton partit aussitôt comme un limier sur la trace des deux inconnus. « Et nous ?» dit le Pérou en baissant la voix, « à la Maison Noire !» Il tourna les talons, suivi de ses 3 compagnons, qui avaient soin de se tenir assez loin les uns des autres. Le maçon et son camarade devaient avoir une avance considérable. Aussi furetant s'était-il mis à courir afin de diminuer la distance qui le séparait d'eux. En passant devant un renfoncement au fond duquel se trouvait une échoppe de savetier, il ne vit pas un homme de petite taille collé contre la muraille et qui tendait le cou comme s'il eût voulu percer les ténèbres de son regard curieux. Dès que Fureton se fut éloigné en courant, cet homme sortit de sa cachette et écouta. On venait vers lui, il se dissimula de nouveau. Le Pérou et ses compagnons passèrent l'un après l'autre et tournèrent le coin du boulevard de la Chapelle. Alors M. Bidache quitta leur enfoncement où il se tenait caché. « Maintenant, se dit-il, je les tiens. Oh, ils seront bien fins s'ils m'échappent. » Le numéro 35 de la rue Mira à la Chapelle est une maison de 6 étages dont la façade sans persienne, haute et lugubre, semble sillonnée de grandes larmes noires, comme si la misère qui y habite avait voulu mettre jusque sur les murailles ses traces navrantes. Madame Grelich habitait au 6e étage de cette maison, sous le toit de zinc, une seule pièce glaciale en hiver, brûlante en été. À côté de cette pièce, meublée d'un grabat et d'un poêle toujours éteint, d'une table et de 2 mauvaises chaises, se trouvait un petit cabinet entièrement noir, avec un lit destiné à Jacques Grelich, mais rarement occupé. Jeanne venait de monter les 6 étages d'un escalier d'où suintait la saleté. Elle reprenait un instant haleine sur le palier supérieur, ne sachant de quel côté diriger ses pas, car plusieurs couloirs sombres et étroits s'ouvraient à cet endroit. Heureusement, une femme qui montait derrière elle, tenant un enfant à la main et portant sur son dos une lessive encore humide dont l'eau dégouttait, vint la tirer d'embarras. Elle lui indiqua, au bout d'un des couloirs, à droite, la porte de la chambre occupée par la veuve Grelich. Jeanne frappa à cette porte. Madame Grelich vint lui ouvrir. Depuis qu'elle avait mis le pied dans cette maison, Jeanne sentait son cœur douloureusement serré. Elle avait vu passer près d'elle des femmes livides, échevelées, des enfants déguenillés. Elle avait deviné derrière chacune de ces portes, dans ces chambres d'où pas un chant, pas un rire ne sortait, une misère profonde, la misère sans espérance. Cette impression poignante fut plus vive encore lorsqu'elle pénétra dans la mansarde où la veuve Grelich mourait lentement de faim. Était-il possible que des créatures humaines fussent aussi malheureuses? Sur les ressorts du lit en fer, une couverture trouée était étendue avec un peu de paille dessous. C'était là que couchait la vieille femme. Sa literie était depuis longtemps un monde pieuté. Son mari l'avait bu avant de mourir. L'unique matelas qui lui resta, elle l'avait mis sur le lit de son fils afin de l'engager à venir coucher quelquefois chez elle. Les murailles étaient entièrement nues. Un petit poêlon en terre accroché dans un coin composait la batterie de cuisine. Le poêle était froid. En voyant arriver Jeanne, si belle dans ses vêtements noirs, la veuve Grelich recula, étonnée, regardant ce charmant visage de vierge à l'expression douce et attendrie, et demanda « À qui dois-je, mademoiselle, l'honneur de votre visite ?»« J'ai entendu dire que vous étiez très malheureuse, » répondit la jeune fille, « et je viens voir si je puis vous être utile. » La vieille femme cacha sa figure dans ses 2 mains ridées et se mit à sangloter. Jeanne, très émue, tomba assise sur une chaise et lui parla doucement. Au bout de quelques instants, la veuve parut se remettre et vint s'asseoir à côté de Jeanne. « Oh oui, je suis malheureuse, » murmura-t-elle, le regard fixe, les mains jointes. « Je ne crois pas que personne ait plus souffert dans sa vie que moi. » Et bien qu'elle eût une sorte de fierté qui l'empêchait de se plaindre jamais à qui que ce fût, bien qu'elle eût pénétré mourir de faim que de prédescendre mendier dans la rue, elle ne put retenir l'aveu de ses souffrances. D'une voix pleine de larmes, elle raconta sa vie, qui était celle de tant de pauvres femmes de son espèce. Ses parents étaient de bons ouvriers. Elle avait reçu une certaine instruction, ce qui expliquait cet air de douceur et de distinction qu'elle gardait dans sa misère. À 20 ans, elle s'était mariée avec un peintre en voiture. Elle avait été assez heureuse pendant 2 ans. Puis le malheur était arrivé. Pierre Greliche s'était mis à faire la noce, il ne rapportait plus d'argent à la maison. Et au bout de peu d'années, l'habitude de l'alcool lui faisait trembler la main, il ne pouvait plus exercer son métier qui exigeait beaucoup d'adresse et de précision. Ils étaient vite arrivés à la misère. Alors les mauvais traitements, les injures, les coups avaient commencé. La pauvre femme avait une santé délicate et était trop faible pour travailler. Son mari lui reprochait son inaction, il l'accusait d'être cause de leur misère, il la battait. Ce fut un enfer qui dura plus de 20 ans. Enfin, il mourut, après avoir mis au bon de piété tout ce qu'il possédait. Il ne lui restait pas un sou. Le bureau de bienfaisance du quartier lui donnait des secours. Elle avait 2 livres de pain par semaine, de temps en temps une pièce de 3 francs et une petite distribution de bois et de charbon. C'était avec cela qu'elle vivait. Madame Greliche n'avait pas parlé de son fils. Et cependant, c'était là sa plus vive douleur. Les mauvais traitements que lui avait infligés son mari, les souffrances de la faim et du froid, elle avait accepté tout cela avec résignation. Mais la véritable torture de cette honnête femme était de penser que son fils était un être infâme et dégradé, pourri de vices, capable de tous les crimes, et qui, un jour ou l'autre, porterait peut-être sa tête sur l'échafaud. Depuis quelque temps, il est vrai, il semblait revenir à des sentiments un peu meilleurs. Il disait qu'il travaillait, il venait la voir parfois, et paraissait prendre en pitié sa misère. Il n'était pas absolument perdu. Il conservait pour elle des sentiments d'affection, et s'il n'avait pas été chassé du logis par son père, s'il n'avait pas eu sous les yeux l'épouvantable exemple de cet ivrogne et de ce débauché, peut-être serait-il resté un honnête garçon, un bon ouvrier. Jeanne comprit à quel sentiment obéissait la vieille femme en cachant l'existence de ce fils. Elle ne fit aucune allusion à ce sujet. Mais au moment où elle allait se retirer, après avoir essayé de consoler la pauvre veuve et lui avoir glissé dans la main une pièce d'argent, la porte s'ouvrit et un homme parut brusquement. Jeanne n'avait pas vu le visage de l'individu qu'il avait accosté le 23 décembre sur la route de Clamart. Mais en apercevant cette tête pâle aux cheveux ébouriffés, aux yeux rouges, ce regard fauve, ses vêtements en désordre, ne douta pas un seul instant qu'elle eut devant les yeux Jacques Greliche. C'était lui, en effet. Il n'était pas venu chez sa mère depuis 8 jours. Il arrivait harassé, transi de froid, à cause des nuits passées dehors, sans un sou, mourant de faim. En voyant Jeanne, il fit un mouvement, et de son côté, la jeune fille ne put se défendre d'un sentiment de terreur. Mais la veuve Greliche était elle-même si émue en ce moment par l'arrivée inopinée de son fils qu'elle ne remarqua point leur trouble. Enfin, reprenant un peu de sang-froid, « Quel est ce jeune homme ? » dit Jeanne en montrant Greliche. « Est-ce votre fils ?» La veuve inclina la tête toute honteuse, sans dire une parole. Alors Jeanne, qui retrouvait toujours dans les circonstances critiques son admirable courage, alla droit au jeune bandit et lui dit simplement « J'étais venu voir votre mère, elle est très malheureuse. Quoique je sois pauvre moi-même, je ferai mon possible pour la soulager. Venez avec moi, je vous donnerai quelques vêtements que vous lui rapporterez. » Jacques Greliche suivit Jeanne sans dire un mot. Au moment de l'introduire chez elle, la jeune fille eut un moment d'hésitation. Mais ce sentiment de crainte ne dura pas et elle le fit entrer. Clara, n'ayant pas les mêmes raisons que sa maîtresse pour se montrer intrépide, recula épouvantée devant cet homme déguenillé qui se présentait le front bas, l'œil sombre, dans leur modeste intérieur. Jeanne la prit à part et lui donna ses ordres. Mais Clara, qui n'était pas revenue de sa terreur, ne quittait point des yeux Jacques Greliche et tremblait de tous ses membres. Lorsque la femme de chambre fut sortie, Jeanne s'approcha de Greliche. « Vous ne travaillez donc pas encore ?» lui demanda-t-elle. « Non, répliqua-t-il avec un air farouche. « Comment voulez-vous que je trouve du travail, vêtu comme ça ?»« Mais que faites-vous donc alors pour vivre ?» Il hésita un instant, puis détournant la tête comme s'il eût honte de faire cet aveu. « Vous le savez bien, » répondit-il. Après un nouveau silence, il reprit. « Ah, mais j'en ai assez de cette vie-là. Un de ces jours, on me trouvera dans le canal. Oh, ça vaudra mieux. » Mais si on vous donnait des vêtements, du travail, si on prenait soin de votre mère, pourriez-vous redevenir un honnête homme ? Pour la première fois, Greliche regarda la jeune fille en face avec une expression étonnée, anxieuse. Si on faisait cela, dit-il la gorge serrée, mais vous savez donc pas qui je suis, qui pourrait s'intéresser à un misérable tel que moi. Enfin, répondez-moi, reprit Jeanne avec force, si on vous donnait cette preuve d'intérêt, seriez-vous capable de vous montrer reconnaissant ? Auriez-vous l'énergie de renoncer à vos mauvaises fréquentations ? Prendriez-vous la résolution d'être sobre, honnête, de travailler enfin ? « Mais j'essayerai, oui, je vous promets que j'essayerai, » dit Jacques, qui subissait l'ascendant de la jeune fille. « Eh bien, écoutez-moi. Ce que je puis faire pour vous est peu de chose, mais j'ai des amis, je m'adresserai à eux. Peut-être leur sera-t-il possible de vous être utile. En attendant, ne quittez pas votre mère. Je vous donnerai des livres. Vous resterez près d'elle, elle a besoin de soins, de consolations. » Et si elle avait joie de vous voir revenir au bien, elle oublierait tout ce qu'elle a souffert jusqu'à présent. Jacques Greliche baissa la tête et Jeanne put voir qu'il était ému. Clara entra en ce moment apportant un panier qui contenait une bouteille de vin, de la viande et du bouillon. Elle remit aussi à sa maîtresse un paquet de vêtements. « Tenez, » dit Jeanne à Greliche quand la femme de chambre les eut laissés seuls, « vous porterez ceci à votre mère de ma part. Avec l'argent que je lui ai laissé, vous achèterez de quoi faire du feu. Je vous recommande encore de ne pas la quitter. Bientôt, je l'espère, je pourrai vous faire dire que je vous ai trouvé du travail. »«
Merci, » dit Greliche, dont l'embarras semblait augmenter à mesure que Jeanne lui donnait des marques de bonté. « Oh, si tout le monde était comme vous !»
Il prit ce qu'elle lui avait donné et se dirigea vers la porte. Mais tout à coup, il s'arrêta brusquement, saisi d'une étrange émotion. Ses yeux venaient de rencontrer un portrait de M. Lasséda, une photographie faite peu de temps avant sa mort et très ressemblante. Jeanne remarqua ce mouvement. Elle tressaillit. Ce qu'elle avait espéré la nuit où elle avait rencontré Jacques Greliche pourrait-il donc se réaliser ? Connaîtrait-il l'assassin de M. Lasséda ? Le trouble qu'il venait de manifester était un indice. Mais peut-être serait-il imprudent de l'interroger immédiatement. Une question prématurée pourrait éveiller sa défiance. Il valait mieux attendre que, revenu à de meilleurs sentiments, il éprouva l'horreur de sa vie d'autrefois et fut disposé à l'expier par un aveu sincère de ses fautes. Jeanne se contenta donc de lui dire en montrant la photographie. « Oui, voici le portrait de mon père, qui est mort assassiné. »
Jacques regarda encore la photographie, puis la jeune fille. Il parut hésiter. Elle crut qu'il allait peut-être parler. Mais il détourna la tête, baissa son regard troublé et sortit sans dire un mot.